VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Vous êtes les bienvenus sur VOA Afrique, le monde aujourd'hui. Alexandrine Rolono à la présentation. Voici le sommaire. 6 hommes condamnés à la prison à vie pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en RDC. La défense a annoncé qu'elle allait interjeter appel. Au Burkina Faso, les excuses de l'armée à la suite d'une expédition punitive à Dori dans le nord du pays. Plusieurs civils ont été tués et d'autres blessés par des militaires. Le cri d'alarme de l'UNICEF, l'organisation appelle les gouvernements à placer la nutrition infantile au premier rang des priorités nationales. Selon elle, près d'un million d'enfants seront exposés cette année à une malnutrition aiguë dans des pays du Sahel. Commençons par la République démocratique du Congo où 6 personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en 2020 en RDC. Les faits remontent à 2021 et le verdict a été prononcé à l'issue d'un procès devant la justice militaire. Un procès qui n'a toutefois pas permis de lever toutes les zones d'ombre sur cette affaire. Le point avec Eddy Isango.
Un seul condamné en fuite n'était pas présent à la lecture du verdict du procès qui s'est tenu à Kinshasa depuis le 12 octobre dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo. La défense a immédiatement annoncé qu'elle allait faire appel. Elle avait plaidé l'acquittement. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire. Présenté comme membre d'une bande des criminels du droit commun, coupeurs de route et kidnappeurs, les condamnés ont été reconnus coupables du meurtre de l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, de son garde du corps italien, des carabiniers Vittorio Iacovacci et d'un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial, PAM, Mustapha Milambo, le 22 février 2021 à l'entrée du parc Virunga dans le Nord Kivu. Aucun témoin ni expert n'a été appelé à la barre durant le procès, même si la défense a voulu entendre les gardes du parc ou encore un autre survivant de ce drame, un autre employé du PAM.
Plus de 14 000 migrants candidats à l'émigration vers l'Europe interceptés ou secourus sur les 3 premiers mois de cette année, soit 5 fois plus que lors de la même période en 2022. Les personnes interceptées sont essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, selon la garde nationale tunisienne. Au cours de ces opérations, la garde nationale a interpellé 63 personnes et saisi 135 embarcations, ainsi que 12 véhicules utilisés pour acheminer les migrants. Plusieurs dizaines de candidats sont morts dans une série de naufrages et d'autres sont portés disparus depuis un violent discours le 21 février du président Kais Saied contre l'immigration clandestine. Au Burkina Faso, au moins 7 civils ont été tués à Dori, capitale de la région du Sahel, entre mardi et mercredi. Ces personnes ont été tuées suite à une expédition punitive des soldats du 11e régiment d'infanterie commando basé à Dori. Les militaires ont présenté hier leurs excuses. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Tout est parti de la mort lundi d'un soldat chez lui et sa moto emportée selon plusieurs témoignages. Alors pendant 2 jours, mardi et mercredi, les soldats du 11e régiment d'infanterie commando en guise de représailles ont fait une descente musclée dans plusieurs quartiers de Dori. Ils ont exécuté des tirs à l'arme automatique et ont bastonné des populations selon un communiqué de la mairie. Selon des sources à la radio locale Radio Omega, au moins 7 civils ont été tués dans ces événements. Dans un communiqué hier, le préfet, par ailleurs président de la délégation spéciale de la commune de Dori, a qualifié ces actes de regrettables et a affirmé que l'armée a présenté ses excuses à toute la population. L'armée s'est aussi engagée à sanctionner les militaires impliqués dans ces actes, précise le communiqué. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme, section Dori, a appelé à une enquête prompte et diligente pour élucider les circonstances de la commission de cet acte, dit-il, lâche et odieux. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Toujours au Burkina Faso, Amnesty International appelle les autorités à cesser les attaques et menaces contre la liberté de la presse et à protéger les journalistes. Dans un communiqué, l'organisation revient sur l'expulsion des correspondantes des journaux Libération et Le Monde et la suspension de la chaîne de télévision France 24, ce qui, selon Amnesty, marque un tournant inquiétant de violation du droit à la liberté d'expression par les autorités burkinabées. Près d'un million d'enfants de moins de 5 ans seront exposés cette année à une malnutrition aiguë sévère au Niger, au Burkina Faso et au Mali, avertit l'UNICEF ce vendredi. Ces 3 pays du Sahel sont aussi confrontés à des attaques djihadistes. Les détails avec Nanit Talani.
Environ 970 000 enfants sont concernés dans ces 3 pays frontaliers en proie à l'insécurité, souligne l'UNICEF. Le Niger est le pays le plus touché, avec une prévision de 430 000 enfants malnutris aigus sévères en 2023. Néanmoins, c'est 60 000 enfants de moins qu'en 2022, une baisse qui peut être attribuée à la forte mobilisation du gouvernement du Niger, de l'UNICEF et de ses partenaires, selon l'organisme onusien. Au Mali, en revanche, la malnutrition aiguë sévère devrait augmenter de 18,4% et affecter 367 000 enfants. L'insécurité et les conflits croissants signifient que la vulnérabilité augmente dans la région et qu'il est de plus en plus difficile d'aider les communautés dans les zones isolées confrontées aux attaques djihadistes, regrette l'UNICEF. L'agence onusienne appelle les gouvernements du Sahel à placer la nutrition infantile au premier rang des priorités nationales et à accroître les investissements nationaux dans la prévention, la détection et le traitement précoce de la malnutrition.
Allons en Éthiopie. Le gouvernement débute le démantèlement des forces militaires controversées des régions dans l'optique de bâtir une armée forte et centralisée, capable de protéger la souveraineté et l'unité du pays. Les membres des forces spéciales vont être réaffectés au sein de l'armée fédérale ou de la police régionale ou pourront retourner à la vie civile, selon un communiqué du secrétaire d'État à la communication. Le gouvernement a fait état d'incidents lors des opérations dans l'état régional de l'Amara. Ces incidents sont dus, selon le gouvernement, à des incompréhensions résultant de la propagation de fausses rumeurs sur ce désarmement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La suite de cette édition avec les États-Unis, deux élus démocrates du Tennessee qui avaient manifesté il y a une semaine pour un encadrement strict des armes à feu après une tuerie dans une école ont été exclus hier de la Chambre des représentants de cet État américain du Sud à majorité républicaine. Jacques Aristide pour les précisions.
Le Parlement du Tennessee a voté en faveur de l'exclusion de Justin Jones et de Justin Pearson. Tandis que Gloria Johnson, la troisième élue démocrate qui faisait l'objet de la même motion, est parvenue à garder son siège. Les deux législateurs sanctionnés avaient rejoint jeudi de la semaine dernière des manifestants dans l'enceinte de l'hémicycle, réclamant une meilleure régulation des armes à feu. Quelques jours après le drame de Covenant, cette école chrétienne située à Nashville, la capitale de l'État, où Audrey Hale a tué 6 personnes, dont 3 enfants, avant d'être abattue par la police. « Ce que le pays voit, c'est que nous n'avons pas de démocratie au Tennessee », a déclaré Justin Jones. Réaction du président Joe Biden également, l'exclusion d'élus qui ont pris part à une manifestation pacifique et choquante, antidémocratique et sans précédent, a-t-il écrit dans un communiqué. Au lieu de débattre des mérites de la question, ces élus républicains ont choisi de punir, réduire au silence et exclure des représentants élus par la population du Tennessee. Encore fustigé, l'occupant du bureau ovale, appelant de nouveau le Congrès américain à interdire les fusils d'assaut.
Toujours aux États-Unis, les chefs démocrates et républicains du Sénat américain exhortent à la libération immédiate du journaliste Ivan Gershkovich, arrêté en Russie pour des accusations d'espionnage. Le Wall Street Journal et le reporter démentent les accusations portées contre lui. Le président américain Joe Biden a réclamé sa libération, son arrestation, la première d'un journaliste étranger pour des accusations aussi graves depuis l'URSS, intervient dans un contexte de répression accrue en Russie contre la presse depuis l'offensive contre l'Ukraine qui a fortement tendu les rapports entre Moscou et Washington. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. 6 hommes ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en RDC. La défense a annoncé qu'elle allait interjeter appel. Nous étions au Burkina Faso avec les excuses de l'armée à la suite d'une expédition punitive à Dori dans le nord du pays. Plusieurs civils ont été tués et d'autres blessés par des militaires. Et le cri d'alarme de l'UNICEF dans la région du Sahel, l'organisation appelle les gouvernements à placer la nutrition infantile au premier rang des priorités nationales. Selon elle, près d'1 million d'enfants seront exposés cette année à une malnutrition aiguë dans des pays du Sahel. Merci de continuer de suivre les informations sur VOA Afrique. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique à présent la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Fonds monétaire international a annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement ivoirien de 3,5 milliards de dollars visant à soutenir ses réformes économiques. Les négociations avaient porté sur un plan d'aide de 2,6 milliards, soit 300% de la quote-part du pays au fonds, mais ce seuil a finalement été porté à 400%. Le programme vise à préserver la viabilité des finances publiques et à faire accélérer les réformes dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. Access Bank affirme avoir levé 300 millions de dollars auprès de sa maison mère, Access Holdings, pour financer son expansion en Afrique. L'opération a été approuvée par la Banque centrale du Nigeria. La banque nigériane avait dit en janvier envisager de s'implanter dans 10 nouveaux pays en Afrique, Europe, Amérique et Asie les 5 prochaines années. Les pays africains en vue sont la Namibie, l'Angola, l'Éthiopie et l'Égypte. Le gouvernement gabonais a signé un accord avec Perenco Oil et Gaz Gabon et la compagnie Gabon Power pour le développement d'une centrale électrique à Mayumba dans la province de la Nyanga. Le projet vise à couvrir les zones rurales et la demande électrique dans le cadre du RIC Sud, le réseau interconnecté du Sud. La centrale thermique à gaz permettra de produire 21 MW, extensible à 50 MW.
Nous retrouvons à présent Yacouba Ouédraogo pour l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
La CAF va désigner bientôt le pays hôte de la CAN 2025.
La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'instance africaine du ballon rond. La Confédération africaine de football explique qu'elle a décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la CAN 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres et de leur gouvernement pour accueillir la compétition. Les choix ne se feront donc pas lors de son assemblée générale prévue le 13 juillet à Cotonou au Bénin. Rappelons que le duo Nigeria-Bénin, le Maroc, l'Algérie et la Zambie sont candidats pour l'édition 2025. Aucune candidature n'a encore été annoncée pour la CAN 2027.
Une partie de la tribune de la Juve est fermée lors d'un match à cause de cris racistes.
C'est la sanction infligée à la Juventus Turin par la Ligue italienne de Serie A, deux jours après les cris racistes de Tifosi Bianconeri envers l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku. L'international belge a été la cible d'insultes racistes au moment d'égaliser sur pénalty dans les dernières minutes de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie contre la Juventus, soldée un but partout mardi à Turin, selon plusieurs vidéos. La Serie A a indiqué dans un communiqué que l'anneau inférieur de la tribune sud de l'Allianz Stadium serait fermé pour un match à la suite des chants racistes proférés par la majorité des supporters de ce secteur. Lukaku avait été exclu pour un deuxième avertissement après avoir célébré son but. Face à la tribune des supporters turinois, le doigt sur la bouche, son carton rouge a été confirmé et il sera donc suspendu lors du prochain match de l'Inter.
Ici en NBA, Miami marche sur Philadelphie avec le mince espoir d'éviter les barrages.
Le Heat a corrigé 129-101 les Philadelphia Sixers déjà qualifiés et qui attendent de connaître leur adversaire au premier tour. Miami 7e fait tout pour se qualifier directement pour les playoffs, même si la possibilité de doubler in extremis Brooklyn 6e est très réduite. Cleveland s'est baladé 118-94 à Orlando. Le Thunder qui restait sur trois revers demeure en ballotage favorable pour accrocher les barrages après sa victoire cruciale ramenée de Utah 114-98 dans un match sans grands enjeux, sinon celui de proposer un avant-goût d'un possible affrontement en demi-finale à l'Ouest. Phoenix, 4e, a eu le dernier mot sur le leader Denver, 119-115. Jusqu'ici, les franchises déjà qualifiées pour les playoffs sont Milwaukee, Boston, Philadelphie, Cleveland et les New York Knicks. Pour rappel, les 6 premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les playoffs. Les équipes classées de 7 à 10 disputeront des barrages.
Merci Yacouba Ouédraogo pour ces informations sportives.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de LMA sur VOA Afrique. Alexandrine Paul, on est de retour pour les magazines. Le président rwandais Paul Kagame dénonce l'indifférence de la communauté internationale face au discours de haine susceptible d'engendrer le génocide. Paul Kagame a fait cette indication à l'occasion du lancement des activités de commémoration du génocide des Tutsis. Reportage de Jean Damasène Manishimwe.
Contrairement aux habitudes, les rues de la capitale rwandaise Kigali étaient désertes ce vendredi matin pour respecter le début du deuil national en mémoire des victimes du génocide des Tutsis en 1994. Le président rwandais Paul Kagame, qui a allumé le flambeau au mémorial de Kigali annonçant la période de commémoration, encore une fois dénoncé la passivité de la communauté internationale face aux cris d'alarme des Tutsis qui étaient massacrés en 1994. Faisant allusion au sentiment anti-rwandais en République démocratique du Congo voisine, il a fait observer que si rien n'est fait, l'histoire du génocide pourrait se répéter.
La violence et les discours de haine persistent non loin d'ici. Cela étant, on peut voir la même indifférence aujourd'hui comme on l'a vu en 1994. La négation du génocide est une tentative dangereuse et délibérée de cacher la vérité. Nous devons lutter contre l'idéologie révisionniste parce qu'elle se transmet facilement de génération en génération. Nous devons combattre le négationnisme car c'est ainsi que l'histoire se répète.
29 ans après le génocide, les rescapés se réjouissent de la politique d'unité et réconciliation qui leur a permis de se reconstruire.
Nous nous réjouissons de l'unité des Rwandais qui se renforce. Il n'y a plus de ségrégation sur base de quoi que ce soit. Il n'y a plus de favoritisme. Tout le monde a droit à l'éducation, un droit que beaucoup d'entre nous n'avons pas eu.
Le président de l'Association des rescapés du génocide estime que l'assistance la plus importante dont jouissent les rescapés aujourd'hui est la fin de la discrimination qui a conduit au génocide.
Le génocide a été préparé et exécuté par les Rwandais, mais nous avons eu la chance que le génocide aussi a été arrêté par les Rwandais de bonne foi. Ces Rwandais de bonne foi pour reconstruire le pays. Reconstruire le pays en commençant par s'attaquer aux conséquences du génocide. Avec ces conséquences du génocide, d'abord, c'est la remise en place d'un état de droit.
Conscients de leur force, les jeunes qui sont nés après le génocide s'initient à l'histoire pour doter leur pays d'un avenir radieux.
C'est un devoir, en fait. Ça signifie commémorer pour aider à nos parents à traverser cette période qui n'est pas facile pour eux, avec confiance en nous, qu'ils ont encore l'espoir de vivre parce que nous sommes là.
La semaine de deuil national au Rwanda va jusqu'au 13 avril, mais la période de commémoration s'étend sur 3 mois pour rappeler la durée des massacres des Tutsis en 1994. Jean Damasène Manishimwe, VOA Afrique. Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Togo, l'Assemblée nationale autorise la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savanes, dans le nord du pays, pour une période de 12 mois. La zone frontalière avec le Burkina Faso est le théâtre de récurrentes attaques perpétrées par des groupes terroristes qui ont fait plusieurs morts depuis l'année dernière. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Au lendemain des premières attaques terroristes d'envergure dans la région des savanes en juin 2022, le gouvernement togolais avait décrété l'état d'urgence sécuritaire dans la zone pour faire face à la menace. 9 mois plus tard, la situation demeure toujours préoccupante au regard de la persistance de nouvelles tentatives. L'état d'urgence est donc prorogé de 12 mois par l'Assemblée nationale. Face aux députés, le chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises a réitéré la volonté des forces de défense et de sécurité de ramener la paix dans cette zone frontalière du Burkina Faso. Colonel Kemens Oyome.
Nous ferons tout ce qui est de notre possible, humainement parlant, pour ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Pour nous, la mission confiée à nous par le chef des armées, elle est sucrée et sacrée et nous irons jusqu'au bout.
Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damrab, la collaboration entre les forces de sécurité des pays voisins permet une meilleure maîtrise de la situation dans la zone.
La situation, c'est vrai, elle est préoccupante, mais elle n'est pas au-dessus de nos forces. Il y a une franche collaboration avec les pays voisins pour gérer cette situation. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'initiative d'Accra, nous avons eu à adopter ce que nous appelons le droit de poursuite. Et aucun pays ne refuse cela. Ça va dans l'intérêt de nous tous.
Politiquement, la persistance de la situation sécuritaire dans la région des savanes et la prorogation de l'état d'urgence dans cette zone préoccupent et inquiètent les partis politiques. D'autant que des élections régionales et législatives sont prévues cette année dans le pays. Jerry Tama, président du groupe parlementaire Net PDP.
On a les activités politiques électorales qui sont programmées cette année. Est-ce que actuellement, les acteurs politiques, les présidents de partis politiques que nous sommes, nous avons la possibilité d'aller faire des activités dans la zone parce que si on va faire des élections en fin d'année, il faut qu'on commence tôt.
Christian Trimoin, le porte-parole du gouvernement, rassure.
Dans le cas des élections à venir, comme on fait d'habitude pour les forces élections, on aura un dispositif qui va accompagner dans la zone. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur le recensement électoral et surtout le processus électoral. La mesure a été prise et l'état de sécurité également sera bien encadré.
Yawa Tchegan, la présidente de l'Assemblée nationale, a appelé à l'engagement de tous les Togolais dans cette lutte contre le terrorisme.
Nous nous concentrons sur le travail de construction de la nation. C'est en cela que nous sommes tout le temps engagés à regarder où sont les intérêts de nos concitoyens et à accompagner le gouvernement dans cette mission.
Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden a transmis hier jeudi au Congrès les documents classifiés relatifs au retrait d'Afghanistan, réclamés de longue date, en particulier par les Républicains. Selon l'exécutif américain, il n'y avait pas d'autre scénario envisageable, à moins de maintenir dans le pays une force militaire américaine renforcée et permanente pour combattre les talibans. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Fin août 2021, les images de l'aéroport de Kaboul entouré d'une foule tentant à tout prix d'embarquer dans les avions en partance ont fait le tour du monde. Près de 2 ans après, dans un document, la Maison-Blanche résume la manière dont le retrait des forces américaines d'Afghanistan a été conçu et exécuté pour mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique qui a duré 20 ans. Son porte-parole pour la sécurité nationale, un organe directement rattaché à Joe Biden, rejette une partie de la responsabilité sur le prédécesseur du président Biden, Donald Trump, John Kirby.
Le président Biden a hérité d'une présence de quelques 2500 soldats en Afghanistan. C'était la plus faible depuis 2001. Il a hérité d'un programme spécial de visa d'immigrants qui avait été privé de ressources. Et il a hérité d'un accord conclu entre l'administration précédente et les talibans qui prévoyait le retrait complet de toutes les troupes américaines d'ici mai 2021, faute de quoi les talibans, qui avaient cessé leurs attaques pendant la durée de l'accord, reprendraient la guerre contre les États-Unis.
Dans une déclaration, Michael McCaul, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, soutient.
Le président Biden a pris la décision de se retirer et a même choisi la date exacte. Il est responsable des échecs massifs de la planification et de l'exécution.
L'Amérique a été bouleversée par la mort de 13 de ses soldats dans un attentat près de l'aéroport de Kaboul le 26 août 2021. Revendiqué par le groupe État islamique, l'attaque a aussi tué 169 Afghans. L'ancien gouvernement de Kaboul, soutenu par l'Occident, s'est rapidement effondré et les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan. Pour John Kirby, personne ne pouvait prévoir ce scénario. No
agency. Aucune agence n'a prédit une prise de pouvoir par les talibans en 9 jours. Aucune agence n'a prédit la fuite rapide du président Ghani qui avait indiqué son intention de rester en Afghanistan jusqu'à son départ le 15 août. Et aucune agence n'a prédit que les 300 000 membres des forces de sécurité et de défense nationale afghanes, formés et équipés, ne parviendraient pas à se battre pour leur pays, surtout après 20 ans de soutien américain.
especially after 20 years of American support.
La Maison-Blanche assure que Washington donne désormais la priorité à des évacuations plus précoces, citant l'exemple de l'évacuation des diplomates américains d'Ukraine. Il n'en reste pas moins que ce retrait historique d'Afghanistan a laissé une impression de chaos aux États-Unis et au-delà.
C'est le Vendredi Saint aujourd'hui, une journée importante pour les chrétiens du monde entier. Elle commémore la crucifixion et la mort de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans, mais son impact spirituel continue d'être ressenti par les croyants aujourd'hui. Quelle est la signification du Vendredi Saint pour les chrétiens et comment est-il observé dans différentes cultures et traditions à travers la planète? Des questions que Jacques Aristide a posées au père Jean-Claude Atoussa-Messo de la Jatukik Providence Foundation à Washington, D.C.
Pour tout le chrétien, le sommet de la vie chrétienne, c'est le temps de Pâques. Le temps de Pâques, c'est le temps de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons ce que nous appelons dans l'Église catholique la Semaine Sainte. La Semaine Sainte commence par le lavement des pieds, le jeudi soir, et puis le vendredi, c'est justement le temps de la passion de notre Seigneur Jésus. Donc, nous considérons d'une façon spirituelle que c'est le vendredi que le Seigneur a été trahi, a souffert, a été flagellé, et il est mort. Il est mort pour nous qui sommes le Fils de Dieu, mais pécheurs, mais il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous racheter de nos péchés. Donc, le vendredi saint, c'est justement ce temps où nous célébrons la passion, la souffrance que notre Seigneur Jésus-Christ a enduré et accepté pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la mort. Et cette pratique est célébrée dans plusieurs communautés chrétiennes. Et je prends simplement un exemple de ce qui se passe aujourd'hui même à Maryland, dans le quartier de nos frères hispaniques. Et ils célèbrent vraiment d'une façon culturelle une cérémonie où ils font le sketch de Jésus-Christ habillé avec un habit en blanc et avec le sang. Et il est en train d'être flagellé. Et ça permet aux membres de la communauté, aux enfants, de revivre le moment où le Christ a souffert avec ceux qui le suivaient, ses disciples. Et dans plusieurs communautés, ils organisent des sketchs pour que le membre de la communauté arrive à revivre ces temps-là.
Le Vendredi Saint, vous venez de le dire, est associé à la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Comment cette histoire continue-t-elle d'avoir un impact sur la vie spirituelle et la pratique religieuse des croyants aujourd'hui?
En ce qui concerne l'impact dans la vie chrétienne, je suis réaliste pour dire que partout où il y a expansion de la croyance chrétienne, partout où il y a l'expansion des chrétiens qui acceptent Jésus comme leur sauveur, tous fournissent un effort pour pouvoir prendre ce temps le Vendredi Saint pour commémorer, donc pour passer ce temps de passion avec le Christ, pour revivre ce temps de souffrance avec le Christ. Donc, dans toutes les communautés chrétiennes, aujourd'hui, c'est un jour spécial où le chrétien arrive de passer ce temps de la passion. Et en même temps aussi, il y a une célébration de semaine de croix qui va suivre immédiatement après le début de cette célébration de la passion du Christ.
Comment les événements actuels du monde ont-ils influencé la façon dont les gens célèbrent le Vendredi Saint cette année? Les communautés chrétiennes ont-elles adapté leurs pratiques religieuses depuis la pandémie de COVID-19?
Pendant surtout le temps de la pandémie, quand tout était en vogue, vous le savez, c'est toute la communauté, c'est tout le monde qui était en quarantaine. Et plus on avait utilisé le virtuel pour célébrer à plusieurs endroits, tout était virtuel. Maintenant, après COVID, on est en train de retourner à nos habitudes habituelles où tous on se retrouve à l'église pour célébrer. mais il y a encore des endroits où il y a encore des restrictions en nombre, où on n'aimerait pas avoir de grandes foules, je crois qu'ils continuent à faire des restrictions. Mais dans la plupart des cas, nous avons repris nos habitudes pour pouvoir célébrer cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos paroisses.
C'était le père Jean-Claude Atoussa Meissot de la Jatukik Providence Foundation à Washington, D.C.